Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
Ah, le vol de nuit s'en va.
La curiosité est un vilain défaut.
Destination Bahia. Buenos Aires ou Cuba.
Comment c'est la Chine?
C'est plein de Chinois.
So far away.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On voyage avec Nicolas Perrac, avec Pierre Perret et surtout avec notre invité, l'éditeur et grand voyageur, Thomas Jonglaise. Vous nous racontiez un de vos voyages, on va en raconter plusieurs parce que je rappelle que vous avez visité avec ou sans vos enfants plus de 109 pays, ce qui est quand même assez incroyable, donc une belle besace d'histoire. Vous nous racontez ce voyage au Pakistan, on est en 1995 et vous vous apprêtez à entrer dans une zone tribale indépendante, voilà. Un peu...
Indépendante de fait.
De fait.
Parce qu'officiellement, sur la carte du Pakistan, ça fait partie du Pakistan. En pratique, ça fait pas du tout partie du Pakistan.
Et alors,
il y a vraiment une frontière, il y a une douane, on passe, voilà.
Et c'est un lieu sous haute tension, c'est comme ça que vous aviez fini la fin de votre récit.
Exactement, c'est-à-dire que la pancarte à l'entrée des zones tribales marquait « Vous quittez le Pakistan, vous rentrez dans les zones tribales, à vos risques et périls ». Voilà. Donc on était accompagné par ce serveur de restaurant des zones tribales qui nous dit « Venez donc chez moi ce week-end, donc on y va ». Et on arrive dans son village, après quelques heures de bus. Et bon, alors là, on va se baigner un peu dans la rivière, etc. Et le soir, grand dîner en notre honneur, parce que ce qu'il faut savoir au Pakistan, quand nous on est arrivé de Chine au Pakistan par un col qui est à 4200 mètres, le douanier à l'arrivée au Pakistan nous dit « Vous êtes étranger, il y a très peu d'étrangers, hein, déjà en 95, il n'y en avait pas beaucoup, vous êtes un cadeau de Dieu, soyez bienvenus au Pakistan ». Donc on a eu pendant... Moi, je suis resté un mois et demi au Pakistan pendant ce voyage-là. Un accueil partout extraordinaire, vraiment. C'était fabuleux. Et donc, on arrive dans ce village. Et on est les héros locaux, puisqu'on est invité par un des membres du village. Grand dîner en notre honneur, etc. Et arrive le moment de se coucher. Et donc, c'était l'espèce de salon ou salle principale du village. Il y a trois lits. Donc, on était deux, avec un ami. On se met chacun dans notre lit. Et là, on voit arriver un type en Rambo, avec la ceinture de, vous savez, les munitions comme ça en travers de la poitrine, la Kalachnikov dans les bras et un pistolet comme ça sur la hanche.
Il vous a souhaité la bienvenue ?
Et alors on dit à notre ami, mais c'est qui lui ? Il dit, non, on a vu qu'il y avait des étrangers dans la région, dans le bus, quand vous êtes arrivés, etc. On ne sait jamais, il est là pour vous protéger. Et donc le type s'est assis en taillant, enfin, croisé les jambes, s'est allongé sur son lit, en disant, moi je dors pas, je vous surveille. Bon. On commence à se préparer pour dormir. Et là, je dis, attends, je voudrais aller aux toilettes. Et donc, notre ami, ah, bah, les toilettes, c'est dehors. Donc là, je me lève, j'ouvre la porte. Et en fait, devant, il y avait un autre type comme ça, armé en Rambo,
aussi armé, oui.
Qui m'amène aux toilettes extérieures dans la cour, parce qu'il n'y a pas de toilettes intérieures. Donc, hop, il m'amène, il me suit, il m'amène aux toilettes extérieures. Hop, hop, je reviens, il me ramène. Donc, on était quand même gardés par deux types armés jusqu'aux dents pendant toute la nuit.
Mais pourquoi ? Parce que vous étiez une cible potentielle ?
Non, parce qu'en fait,
occidentale.
C'est tout un tas de tribus, on dit zones tribales, mais il y a plein de groupes ethniques au sein de ces zones tribales qui sont rivales. Donc, en fait, ils se font la guerre entre eux aussi. Donc, un étranger, si ça sait que le type a bien protégé, on peut aller le kidnapper pour emmerder la tribu, justement, qu'il a accueilli et qu'il a invité.
Ce séjour en zone tribale, c'est bien terminé pour vous, Thomas Jonglaise ?
Ça s'est parfaitement terminé, voilà. Donc, le lendemain, on reparle de Dar al-Mrel. Le lendemain, on dit à notre ami serveur du restaurant, on a entendu parler de ce petit village à 2-3 heures de bus, paraît-il incroyable. Il me dit, bon, je peux vous emmener, mais alors ça, c'est un petit peu chaud. Donc vous vous mettez le chalwar kameez, qui est l'habit traditionnel pakistanais, et enfin de la région, des Pashtuns, qui est une sorte d'habit un peu indien, très léger, en coton blanc. Le petit chapeau musulman blanc. Et en fait, les gens dans la région ont le teint un peu à l'européenne. C'est pas du tout un teint pakistanais, mat ou indien. Ils ont un teint. Nous, on pourrait être Pashtun et les Pashtuns pourraient être européens. Vraiment,
donc
quand on les voit comme ça.
Vous pouvez habiller comme ça, vous fondre dans la population.
Mais il nous dit, en revanche, on va prendre le bus, vous parlez pas trop, vous attirez pas l'attention, mais je suis là avec vous, tout va bien.
Je rappelle, c'est en 1995. Hein.
Et donc, on arrive, on sort du bus. Et alors là, c'est un petit village, un peu comme dans les villages de Lucky Luke, une rue en terre. Et sur 200-300 mètres de long, des petites maisons rez-de-chaussée de part et d'autre de la ruelle. On descend du bus et là, il y avait 10-15 types qui tiraient en l'air avec Kalachnikov, pistolet, etc. Mais tiraient en l'air. Un peu impressionnant quand même. Mm-hmm. Donc on descend et tu dis, tout va bien. Et là, ils nous amènent dans la première maison à droite. Et en fait, le village est une succession de magasins de fabrique d'armes et de vente d'armes. un sur deux à peu près. Et le magasin d'à côté, c'est vente de drogue en vente libre. Donc vente d'armes, donc on rentre dans le premier magasin de vente d'armes. Alors là, c'est la caverne des babas des armes. Pistolets, stylos pistolets, kalachnikov, fusils, pistolets de Chicago des années 30, etc. Il y avait tout. Et derrière, ils ont un petit atelier de fonte, de fonderie, où ils peuvent fondre du métal et fabriquer et copier toutes les armes.
Vous écoutez RTL.
Thomas Jonglès, on était avec vous au Pakistan. Vous nous racontez ce village que vous avez découvert, le village de Dara Adamkel, où il y a une boutique sur deux qui fabrique des armes.
Une fabrique qui fabrique des armes et l'autre, c'était vente de drogue, parce que c'est évidemment une zone de trafic en tout genre, avec en vente libre et en vitrine de l'opium, de l'héroïne, du hashish, etc. Donc c'était assez impressionnant.
Pour la consommation personnelle des habitants.
Des habitants
pour
du coin,
commerce,
tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Et pour les gens de la région qui venaient se fournir là, tout simplement.
Alors on ne va pas tirer des plans sur la comète, on ne sait pas du tout ce qui s'est exactement passé sur les Champs-Élysées, s'il faut faire un lien avec un terrorisme et plus particulièrement le terrorisme islamique. Mais vous étiez dans les zones tribales en 95. 6 ans plus tard, il y a le 11 septembre, qui est quand même le point de départ d'une nouvelle forme de guerre. Est-ce que vous sentiez l'islamisme, la puissance de l'islamisme en germe dans cette région entre l'Afghanistan et le Pakistan ?
En fait, pas du tout. Ce que j'ai senti, moi, quand j'étais là-bas, c'était plus des traditions tribales. D'ailleurs, le mot zone tribale l'indique bien. C'est des zones de tribus qui ont des traditions même, notamment la tradition de l'honneur, qui sont des traditions pré-islamiques presque. Et je dirais que les comportements de toutes ces tribus, notamment les Pashtuns, l'ethnie Pashtun de la région qui est aussi en Afghanistan, c'est plus des comportements pré-islamiques, avant l'islam, plutôt que des comportements qui sont liés à l'islam. Et c'est vraiment moi ce qui m'a frappé quand j'étais là-bas. C'est ce que j'ai compris en étant là-bas, en fait. C'est même pas, leur comportement n'est même pas lié à l'islam, en fait.
Vous avez fait de 95, on l'a fait.
Des voyages qui vous ont effrayé et puis d'autres voyages qui vous ont réjoui, qui vous ont passionné, qui ont titillé votre curiosité. Savez-vous par exemple pourquoi le mythique stade de Rio de Janeiro s'appelle le Maracana ? On vous répond dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Et on continue notre tour du monde, des lieux les plus secrets, des lieux les plus insolites de la planète avec notre invité, l'éditeur Thomas Jonglès. Vous publiez d'ailleurs plusieurs guides tirés de certains de ses voyages. Venise insolite et secrète, Rio insolite et secrète.
Paris méconnu, Marseille insolite et secrète. Et il y en a combien ? 109 comme ça ?
Non, quand même, bientôt, on est à une cinquantaine environ, 50 villes traitées.
Pas mal. Ouais.
Donc ces voyages, ils ont aussi un objectif, celui de partager une passion.
Oui, alors d'ailleurs c'est ce que je mets un petit peu dans les intros des guides. C'est un jour j'ai compris en fait pourquoi j'aimais autant voyager. J'étais au nord du Brésil d'ailleurs, mais il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Et j'ai eu une sorte de prise de conscience. Et je me dis en fait quand on est en voyage, tout est tellement différent. C'est même plus de l'exotisme. L'exotisme c'est bien, mais on dépasse ça. Quand on est en voyage, en fait comme c'est très nouveau et qu'on découvre en permanence, on est particulièrement attentif. Et donc en fait je pense qu'on aime voyager parce qu'en voyage on est particulièrement présent à ce qu'on fait, présent à ce qu'on regarde et à ce qu'on dit. Donc c'est cette présence qui est, je dirais, provoquée par le fait qu'on voyage, qui, je pense, donne cette intensité et qui fait apprécier le voyage.
Ce qui fait aussi que vos guides, par exemple Paris méconnu ou Marseille méconnu, peut être lu, et d'ailleurs moi j'ai le Paris méconnu, et je me suis baladée dans Paris avec, par les habitants de la propre ville, parce que justement c'est un autre regard que vous apportez, un regard de curieux.
Exactement.
Sur la ville ou le pays.
Et en fait on essaie de faire en sorte que les gens gardent cette présence et cette attention qu'ils ont en voyage et qu'ils la gardent quand ils reviennent chez eux, dans leur ville. Et donc ils regardent leur ville avec un œil particulièrement précis, attentif, etc., etc.
Alors aujourd'hui vous vivez à Rio de Janeiro, au Brésil, pourquoi ?
Alors, pour deux raisons.
Moi, j'ai plein de bonnes idées pour répondre à la question, mais bon.
En fait, j'essaie toujours de cumuler l'utile à l'agréable. Et donc, en fait, avec mon métier d'éditeur, les auteurs habitants dans toutes les villes du monde, Tokyo, New York, Le Cap, Rio, Venise, Londres, etc., en fait, je peux habiter où je veux. Parce que les auteurs, en fait, on communique principalement par email. Aujourd'hui, on a le Skype pour se téléphoner si on veut. On peut envoyer des fichiers très lourds de photos par différents programmes Internet. Et donc, je peux habiter où je veux. Après avoir passé 7 ans à Venise, on s'est dit, bon, où est-ce qu'on va maintenant ? Et on en parlait tout à l'heure, en fait, on a décidé d'habiter Rio, je vais revenir pourquoi. Et en fait, la scolarité au Brésil commence en février, elle s'arrête en Europe et à Venise, quand on habitait, en juin. Donc on avait 7 mois sans école. Donc on s'est dit, tiens, profitons-en, moi je peux travailler où je veux, il me suffit d'internet et de mon ordinateur portable et je peux me mettre à travailler. On va partir en voyage 6 mois. Et donc pendant 6 mois, on a pris le train pour aller de Venise à Rio, Venise, Paris, Moscou, Pékin, Pyongyang en Corée du Nord. On est revenu en Chine jusqu'à Qingdao pour prendre le bateau pour le Japon. On a loué une voiture 1 mois au Japon, on s'est promené. Après on a repris l'avion pour aller à Palau, en Micronésie, Philippines, îles Salomon, Fidji, Tahiti, île de Pâques, Pérou, Bolivie, Rio. Et on est arrivé par la route jusqu'à Rio. Et une fois arrivé à Rio, au bout de 6 mois, on est resté.
D'accord. Non, c'est quand même dingue, parce que là, vous l'avez dit en 15 secondes ou en 20 secondes. Donc, vous profitez d'une espèce de gap dans votre calendrier pour dire...
Il y avait une opportunité.
On va faire Venise-Rio, mais à notre façon.
Voilà, on n'a pas pris l'avion Venise-Rome-Paris-Rio. Ouais. Non, voilà, par l'autre côté.
Alors, on va rester à Rio avec vous, Thomas Jonglaise. La première passion du Brésil, on sait, c'est le football. Que trouve-t-on à l'extérieur du mythique stade du Maracanã?
Maracanã.
J'ai dit quoi? Maracanã, pardon.
Maracanã.
C'est autre chose, Maracanã. Oui, c'est autre chose, là. C'est quoi cette chanson, là? Macarena, voilà.
Alors
en fait, il y a une statue d'un joueur de football devant l'entrée principale du stade. Et en fait, la plupart des Brésiliens croient que c'est la statue de Bellini, qui est le capitaine de l'équipe de Brésil en 58. Première victoire à la Coupe du Monde du Brésil en 58. D'ailleurs, la France avait fait une très belle Coupe du Monde en 58, en demi-finale. Mmh. Et c'était la première victoire. Et donc, pour célébrer cette première victoire, on a construit une statue d'un joueur de foot brésilien qui est comme ça, qui lève la Coupe du Monde, etc. Et donc les gens ont tout le temps cru, ils croient toujours que c'est Bellini, le capitaine de l'équipe. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, le sculpteur a juste sculpté un personnage anonyme qui est Anneau champion du monde. Ouais. C'est une statue qui reprend un joueur. Et en fait, pas du tout. Alors, c'est absolument pas Bellini parce qu'on a demandé à sa veuve à l'époque, parce qu'il est mort, je ne sais plus quelle année d'ailleurs, on a demandé à sa veuve dans les années 2010. Et finalement, c'est bien, en regardant le visage de la statue, on voit bien que c'est pas votre mari, c'est qui? Si, ils sont venus faire des tests, etc. Et en fait, deux autres personnes prétendent avoir été sculptées.
Tout le monde se réclame.
Pour être le modèle de la statue. Donc, notamment, il y a eu un journaliste. Non, c'est moi le modèle de la statue. Un autre qui dit, mais non, c'est moi, un chanteur, etc.
Est-ce que les Carioca, c'est ça, le nom des habitants de Rio, de Rio, est-ce qu'ils savent que c'est pas le visage de Bellini?
Ils le savent depuis qu'on l'a mis dans le guide.
Bravo.
Pour ceux qui l'ont lu.
Bravo. Tiens, ça veut dire quoi d'ailleurs, Maracanã?
Ah, ça, je suis curieux, parce que moi, je suis fan de foot et je sais pas.
Alors, Maracanã, c'est le nom d'une famille d'oiseaux qui était très présent dans la région du Maracanã à l'époque. Quand on habite Rio et qu'on voit, il y a beaucoup de haras, perroquets, perruches, etc. Donc c'est ce type de famille d'oiseaux qui s'appelait à l'époque en langue toupie. La langue toupie, c'est la langue des Indiens qui habitaient la région de Rio à l'époque, à l'époque coloniale. Enfin, avant l'époque coloniale, justement. Et donc c'est ça, c'est cette famille d'oiseaux, perruches, perroquets, etc., en langue toupie.
Et donc c'était leur territoire, on les a chassés pour construire un stade, mais c'est quand même...
Pour de drôles d'oiseaux.
Tiens, en parlant d'oiseaux, il y a un lieu totalement insolite à Rio où ils peuvent... reposer en paix, c'est un cimetière d'oiseaux?
Oui, ça c'est. Alors, il a un double intérêt. Au-delà d'être particulier, parce que je pense que c'est un des rarissimes cimetières d'oiseaux au monde, il y a des cimetières d'animaux. On en connaît un à Asnières, près de Paris. Et c'est un relativement fréquent à droite à gauche dans le monde. Mais des cimetières d'oiseaux, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Effectivement, alors, il a en plus la particularité d'être sur une île, dans la baie de Rio, qui s'appelle l'île de Paqueta, qui est un petit joyau caché où vont très peu de touristes, mais que je recommande absolument quand vous allez à Rio. À partir du centre de Rio, on prend une sorte de ferry, 40 minutes, et là on arrive sur cette île où il n'y a pas de voiture, interdit aux voitures. Donc il y a des loueurs de vélos quand on arrive du débarcadère, on loue son petit vélo et on fait le tour de l'île, et c'est délicieux. On se promène en vélo, on déjeune, il y a des vues sur toute la baie, et en fait la baie de Rio a la particularité aussi, en fond de baie, parce que là on est en fond de baie, d'être proche des montagnes.
Et on trouve des petits caveaux d'oiseaux.
Alors, dans le cimetière en question, on trouve des petits caveaux, des tout petites tombes minuscules à la taille des oiseaux, effectivement.
Mais alors, c'est pas les oiseaux qui s'enterrent entre eux, évidemment, c'est les propriétaires d'oiseaux qui achètent une concession pour leur animal.
Exactement.
Et ben voilà, où se niche l'amour des hommes, des humains pour les animaux et pour les oiseaux. Tiens, une dernière petite histoire sur Copacabana qui est bien française puisque elle concerne Napoléon. Ce sera dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut.
RTL.
Quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio de Janeiro.
Rio, Rio de Janeiro. À Rio, au Brésil. À Rio de Janeiro.
curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
De retour dans la curiosité, on poursuit notre voyage autour des lieux insolites du monde entier avec l'éditeur et globetrotter Thomas Jonglès. Vous vivez depuis 4 ans à Rio et vous avez l'œil affûté. Vous essayez de trouver tous ces petits détails que les cariocas ne voient pas forcément ou les Français qui viennent se balader. Et c'est pour ça que vos guides sont formidables aux éditions Jonglès. Je dis pas ça juste pour vous faire plaisir, mais parce que je les utilise aussi. Et on parlait de ses spécificités et notamment une spécificité française à Copacabana. Que peut-on y admirer?
Alors dans le fort de Copacabana, donc qui est au bout de la plage, en fait qui est l'espèce de presqu'île rocheuse entre Copacabana et Ipanema. Donc du côté de Copacabana, il y a ce fort militaire qui visite aujourd'hui, c'est une sorte d'attraction touristique, et il y a un petit musée. Et dans ce petit musée, au premier étage, à un moment, il y a une vitrine et on voit une mini statue de Napoléon, une médaille et une mèche de cheveux qui soit disant Napoléon. Alors on a enquêté parce qu'on trouvait ça un peu étonnant, une mèche de cheveux de Napoléon à Copacabana à Rio.
Oui, à moins qu'elle soit fait couper les cheveux là-bas.
Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors le mystère est un peu toujours entier, mais ce qu'on a réussi à savoir en enquêtant un petit peu, c'est qu'en fait elle a été donnée en 1992 par les descendants d'un général. Quand il y a eu le régime des généraux au Brésil jusqu'en les années 80, c'était le général maréchal Branco, je crois, qui a reçu en 1964 cette mèche. On ne sait pas d'où. Et l'histoire date de l'époque de Napoléon, évidemment. Juste avant sa mort, il aurait convoqué son aide de camp, un certain marchand, en lui disant « Quand je vais mourir, tu vas me couper les cheveux pour les donner avec un petit bracelet en or. Tu vas donner ça à ma femme et à mes enfants. » Et donc, le marchand en question aurait coupé en deux parties. Il aurait d'abord coupé le sommet du crâne, parce qu'au moment de l'enterrement, ils ont mis un chapeau à Napoléon, donc le fait qu'il n'ait plus de cheveux ne se voyait pas. Et ensuite, il a coupé le reste, juste avant de mettre son corps dans le cercueil définitivement. Ce qu'on ne sait toujours pas, alors appel aux auditeurs, si quelqu'un sait, c'est comment cette mèche est arrivée au Brésil. On ne sait pas. On sait quand elle a été donnée au musée de Copacabana, etc. On sait l'origine du fait qu'on lui a coupé les cheveux. Mais le passage de Napoléon au Brésil est encore inconnu.
Belle énigme pour nous résoudre.
Écoutez, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à réagir au 3210 ou à contacter les éditions Jonglès. Alors on est au Brésil, on a parlé de football évidemment, il faut parler aussi de musique et notamment de ces trottoirs musicaux. C'est quoi ça?
Ouais. Alors ça c'est dans un quartier qui s'appelle Villa Isabel, c'est un petit peu le début de la banlieue.
Toujours à Rio.
Et en fait quand on arrive à Rio, ce dont on se rend compte, c'est que le carnaval et toutes les écoles de samba ne sont pas du tout dans les quartiers chics où vont les touristes. Ils sont tous dans les quartiers nord. Un peu comme à Marseille, les quartiers nord, c'est les quartiers un peu moins favorisés, où il y a toutes les favelas et toutes les écoles de samba. Et dans une de ces écoles, Villa Isabel, où il y a une des grandes écoles de samba de Rio, en 1964, juste pour le 400 centenaire de la ville de Rio, qui était en 1965, on a créé ces trottoirs musicaux. C'est-à-dire qu'on a dessiné sur les pavés. Alors quand on va à Rio, on se rend compte qu'il y a des pavés, c'est des pavés aussi portugais. C'est des toutes petites pierres, et donc qui font des motifs. Donc on a réussi à faire des motifs en pierre sculptée, comme ça, de notes de musique, et qui dessinent les vraies notes de musique de 20 chansons très connues au Brésil. Donc si effectivement
c'est le panthéon musical brésilien.
Voilà. Si on arrive à lire les notes de musique sur une partition, on se pointe dans ce quartier de Villa Isabel et on regarde. On arrive à lire les musiques de 20 grandes, notamment la première samba a été dessinée là. Les grands succès musicaux brésiliens historiques sont tous dessinés. Donc il y a 20 chansons qui sont
et avant d'entonner ces chansons, les cariocas entonnent toujours ça. J'ai choisi cet extrait parce que c'est l'hymne, me semble-t-il, national de la ville, la Cidade Maravilhosa.
Très bien prononcé.
Waouh.
Alors là, à vous, Thomas. Chapeau. Non, moi je m'y risque pas, mais on n'est pas tout à fait sûr que ce soit la bonne musique.
C'est la bonne version.
C'est quoi l'hymne de Rio?
Elle est chantée peut-être.
C'est vrai que Cidade Maravilhosa, en plus, c'est un mot qui était assez. Parce que Paris, c'est la ville lumière, New York, c'est Big Apple, etc. Ouais. Et puis Venise, c'est la Sérénissime. Il y a quand même que très peu de villes qui ont un surnom. Et ce surnom de ville merveilleuse vient de 1908. Il y a eu une grande exposition nationale, un peu une sorte d'exposition universelle de l'époque, même si elle n'était que nationale, pour célébrer l'ouverture des ports en 1808. Et en fait, il y a eu des immenses travaux faits à cette occasion-là pour moderniser la ville. Et donc, à l'occasion de cette modernisation, un écrivain local de l'époque a dit oh, grâce à ses travaux, la ville devient merveilleuse. Voilà. Donc bon. L'origine du mot vient de là.
Allez, on revient en Europe pour une autre ville merveilleuse, la Sérénissime, vous venez de l'évoquer. Venise, et dans votre guide insolite et secret de Venise, vous évoquez un canal souterrain. Alors on commence par ça, puis ensuite on aura le temps de raconter la suite. C'est quoi ce canal souterrain?
Alors il se trouve que quand on habite Venise, un des côtés magiques à Venise, c'est d'avoir son propre petit bateau.
Vous y avez vécu pendant...
J'ai vécu 7 ans.
7 ans.
Oui. Donc quand on est arrivé, on s'est tout de suite dit, bien sûr, il nous faut un petit bateau. Alors un petit bateau, on s'est dit... Parce qu'il faut qu'il soit étroit, hein. Faut pas, pas besoin d'un bateau chic, justement pas. Il faut un bateau étroit qui passe dans tous les canaux les plus étroits.
Ouais.
Donc il y a ce qu'on appelle, nous on a acheté, il y a deux types de bateaux locaux, qui sont soit le Cofano, soit la Topetta. Donc nous on a choisi le Cofano et on voulait absolument un petit bateau en bois verni très joli, donc on s'est acheté ça. C'est pas très cher d'ailleurs. Et donc je naviguais dès que je pouvais dans les petits canaux avec mon petit bateau. Et je partais du principe que je voulais jamais prendre deux fois le même chemin. Donc je voulais voir tous les canaux de Venise. Et à force de découvrir toujours des nouveaux canaux, alors, ah tiens, cette fois-ci je vais à droite, puis à gauche, puis à droite, puis je changeais à chaque fois. Je fais pareil à pied d'ailleurs. Quand je dois aller d'un point A à un point B plusieurs fois de suite, je prends jamais le même chemin.
Ouais.
Une fois je vais tout droit.
Bon conseil pour les voyageurs qui nous écoutent.
Une autre fois je vais prendre la rue à droite et la rue parallèle. La fois d'après, si je vais en métro, je vais descendre la station d'après pour revenir, ou la station d'avant pour marcher. Voilà.
Bon, c'est
et
donc bien là, que j'ai trouvé la station.
Et donc là, en bateau, c'est pareil. Pérégrination, je sais pas si on peut dire ça en bateau, c'est peut-être pas très français. Vous avez découvert ce canal souterrain dont vous allez nous parler dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Que c'est triste Venise. Autant des amours mortes.
Laisse les gondoles à Venise. Le printemps sur la Tamise.
Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreillée, la voix soumise en gondolier.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est l'une des destinations, l'un des 109 pays que notre invité a visité. Dans celui-là, il a même vécu, dans cette ville, il a vécu à Venise. Et c'est aussi l'un des guides que vous nous proposez aux éditions Jonglaise Venise, Insolite et Secrète. Il y a aussi Marseille, Paris, Rio et tant d'autres. Thomas Jonglaise, vous êtes voyageur et donc éditeur et... Quand vous viviez à Venise, je vous ai interrompu tout à l'heure, en pleine pérégrination, puisqu'on a vérifié, on pourrait l'employer a priori même en bateau. Dans les canaux de Venise, vous découvrez quoi?
Je découvre effectivement, à un moment, je vois un petit canot qui part à droite et je le vois disparaître, je ne vois pas le bout. Ça arrive parfois, c'est qu'il y a des bras de canaux qui s'arrêtent sur des murs. Parce que ça peut arriver, certains canaux ont été bouchés à une époque, pour faciliter le trajet à pied. Et donc je me dis, bon, je vais voir, parce que c'est facile de dire, non, il y a au fond, c'est bouché comme souvent, etc. Et en fait, j'y vais, et je me rends compte que le canal n'est pas du tout bouché. En fait, il y a une voûte arquée, comme ça, qui passe sous la nef de l'église Santo Stefano. Alors ceux qui connaissent un peu Venise connaissent bien Santo Stefano, c'est une église assez importante à Venise, avec le Campo Santo Stefano devant, où notamment les gens le prennent pour aller de l'Académia à San Marco. Et en fait, le canal passe sous la nef de l'église. Traverse, donc sur une quasiment, parce que l'église est très grande, donc quasiment sur 50 mètres, on traverse en dessous de l'église, le canal, et on réapparaît derrière.
Mais il est quoi? Il est quasiment souterrain, complètement?
Alors pendant 50 mètres, il est souterrain.
Il est complètement souterrain.
Complètement souterrain.
D'accord.
Il y a une
donc
voûte.
Il faudrait transformer son bateau en petit sous-marin. C'est ça?
Non, mais ce qui est amusant, justement, c'est qu'on ne peut pas toujours passer. Parce que quand il y a la marée très haute, la Acqua Alta, il n'y a plus de passage. C'est-à-dire que l'eau monte dans le canal, et donc on ne peut plus passer. Donc en fait, certains jours, à marée très haute, le canal souterrain n'est plus utilisable, n'est plus navigable.
Il y a des amoureux qui viennent se bécoter dans ce canal.
Effectivement, ça c'est le grand lieu pour les jeunes adolescents vénitiens. Alors ils prennent leur petit bateau et ils viennent se cacher là. Effectivement, on en croise régulièrement.
Alors on continue de se balader à Venise avec vous, Thomas Jonglaise. Et on peut, par exemple, observer de drôles de ronds dans le sol. On est à quel endroit?
Alors ça, il y a Campo Santo Stefano, on en a parlé à l'instant. Mm-hmm. Dans la rue d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Venise, qui va vers San Marco, il n'y en a qu'une. À l'angle, il y a une pharmacie. Enfin, il y avait une pharmacie d'ailleurs, elle a fermé il y a 2 ans. Et en face de cette pharmacie, on trouve sur le pavé historique de la place, qui sont des pavés carrés, à peu près carrés, 3 ronds. C'est-à-dire que le pavé est enfoncé de façon circulaire au milieu du pavé. 3 ronds qui sont espacés sur 3 pavés différents, un peu en triangle, à environ 1 mètre de distance entre chaque. Et en fait, après enquête, alors c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut, on mène l'enquête après. Qu'est-ce que c'est que ce pavement? On se dit, faut pas se dire c'est par hasard, c'est là, c'est rien. Non, non, il y a toujours une raison. Enfin, la plupart du temps, il y a une raison. Et en fait, ces trois pavés ronds correspondent aux trois pieds du chaudron qui servait à fabriquer une sorte de potion magique de l'époque
incroyable.
Renaissance, qui s'appelait la teriyaka. Et en fait, Venise avait le monopole quasiment à l'époque de l'importation de toutes les épices.
Oui.
Ils détenaient tout le commerce dans la Méditerranée et donc ils avaient le quasi-monopole du commerce et de l'utilisation des épices. Et donc il y a une tradition pharmaceutique à Venise qui s'est créée. La production de produits pharmaceutiques et le nombre de pharmacies à Venise était immense, à tel point qu'il a fallu à un moment limiter le nombre de pharmacies tellement il y en avait. Et donc, un pharmacien un jour a eu l'idée de reprendre des anciennes formules et recettes historiques du monde de l'Empire romain, les ont adaptées et ont commencé à délirer un petit peu, il faut être clair. Historiquement, il y avait peut-être une certaine valeur médicinale, parce que on mettait des vipères vivantes, on mettait de l'opium, on mettait soi-disant...
De la corne de licorne.
De la corne de licorne. En fait, la corne de licorne, on sait ce que c'est aujourd'hui. La légende de la corne de licorne, c'est en fait une corne de narval.
De narval, oui.
Voilà. Il y a d'ailleurs une corne de narval sculptée sublime au sein du Mésocorère sur la place Tamar.
De la poudre de testicules de cerf aussi.
Poudre de testicules de cerf, exactement. Il y avait tout un tas d'ingrédients plus ou moins fantaisistes.
Déjà qu'on leur retire les bois, on ne peut pas les laisser tranquilles, c'est ça?
Non, c'est vrai, oui. Mais ça devait faire extrêmement mal. Ça servait à quoi cette potion magique?
Alors, ça guérissait tout ce qu'on voulait. Au fur et à mesure, ça guérissait la peste, ça guérissait les piqûres de scorpion, ça guérissait beaucoup de choses. À tel point qu'il y a eu des abus, évidemment. Les gens ont commencé à mettre un peu n'importe quoi pour le vendre et pour l'exporter, puisque Venise avait acquis une réputation mondiale dans la fabrication de la teriyaka et de médicaments en général. Et donc, ils ont commencé à mettre n'importe quoi. Et ça a été interdit au bout d'un moment, tellement il y a eu d'abus.
Alors, juste pour revenir et pour finir sur ces ronds, ça veut dire que le chaudron était tellement lourd qu'il a marqué le sol comme ça de son poids. Donc, on a dû en faire de la potion de teriyaka.
Ils en ont fait pendant, je crois, plus de 300 ans.
Oh,
et on avait le droit de le faire une fois par an pour la plupart des pharmacies. Il fallait le faire de façon publique. Alors le grand show de l'époque, c'était comme il y avait des serpents et des vipères qui étaient utilisées vivantes, il y avait une cage aux vipères. Donc pendant 3 jours, ils mettaient tous les ingrédients qui allaient servir à fabriquer la teriyaka devant la pharmacie.
Ah, c'était un spectacle.
Protégé par un garde, c'était un spectacle. Il y avait les vipères vivantes, etc. Et après, ils fabriquaient en public la potion. La teriyaka.
Alors l'un des monuments à voir absolument quand on est à Venise, c'est forcément le palais des Doges. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau, de surprenant, d'insolite sur un palais que des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de touristes sont déjà visités?
Alors là, il y a beaucoup de choses sur le palais des Doges que très peu de gens voient.
Oui.
Il y a notamment au milieu à peu près de la colonnade au premier étage, deux colonnes qui ont une couleur un peu différente.
Un peu rosé, tout à fait.
Alors, on ne s'en rend pas bien compte si on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne voit pas, tout simplement. Mais si quelqu'un vous le dit, vous regardez, ah mais oui. Et on les voit une fois qu'on les regarde. Et en fait, c'est là que le Doge se plaçait pour annoncer les peines capitales ou les exécutions ou les peines des criminels.
Le Doge, c'était quoi?
L'autorité maximale de la Sérénissime, donc de la République de Venise.
De la République de Venise, c'était un chef d'État.
Roi, président de l'époque, le Doge. Avec son fameux corno ducale, qui était son chapeau avec cette forme très spéciale qu'on voit sur certains tableaux de Bellini. Bref, et c'est là qu'il se mettait entre ces deux colonnes pour annoncer les peines capitales des criminels, qui étaient d'ailleurs souvent exécutés entre les deux colonnes qui sont au bout de la place.
Et quand on contourne ce palais des Doges, on peut apercevoir deux petites loupiottes qui sont allumées en permanence. Alors ça, tel qu'on vous connaît maintenant, Thomas Jonglaise, ça vous a intrigué et vous avez mené l'enquête. Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
On a évidemment mené l'enquête, savoir pourquoi ces deux petites lumières allumées en permanence. En fait, elles rendent hommage à une erreur judiciaire, une des rares erreurs judiciaires de la République de Venise, qui était très pointilleuse justement, témoignage contre témoignage, dénonciation, il y a les fameuses bouches de dénonciation qu'on trouve à Venise. Et en fait, c'est un jour, au XVIe siècle, un boulanger qui se promenait sur la place donne un coup de pied sur une sorte de fourreau d'une dague et le ramasse. À ce moment-là, on le croise, on trouve la dague en question dans le corps de quelqu'un qui est allongé sur le trottoir mort. Et évidemment, on se dit, c'est lui, on l'accuse. pris de panique, le boulanger avoue le crime qu'il n'a pas commis, est condamné à mort, est tué, etc. Et on se rend compte plusieurs années après que pas du tout, c'était pas lui, finalement un criminel qui s'est dénoncé. Donc erreur judiciaire, c'est pour réparer cette erreur judiciaire, pour rendre hommage au boulanger, que ces deux lumières sont allumées en permanence, même 500 ans après.
Alors ce qui est formidable, Thomas Jonglès, c'est que des histoires comme ça, vous en avez des centaines de milliers, puisque vous avez voyagé dans 109 pays, que vous publiez plus de 50 guides aux éditions Jonglès, tiens, c'est votre nom de famille, oui. Venise, Marseille, Paris, Rio, peut-être un petit nouveau qui vient de sortir.
Ben là, on va sortir Tokyo, Washington, Nouvelle-Orléans dans les semaines qui viennent.
Et ce qui est formidable, c'est que vous allez sur le terrain, donc vous savez de quoi vous parlez, donc on peut vous faire confiance. Il n'y a pas que des récits insolites, il y a aussi des conseils.
Il y a des conseils pratiques, typiquement comment visiter la basilique Saint-Mars sans les touristes.
Vous écoutez RTL.